Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le dimanche 24 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis BenoFX et en ce dimanche matin, je suis accompagné d'Astien. Salut Astien.
Bonjour BenoFX.
Et pour cette première interview du dimanche matin, nous recevons Clément de Catch Up Game. Bonjour Clément.
Salut à vous.
Ça va bien ?
Oui, très bien.
Alors,
ça va que c'est le dernier jour.
Ouais, t'as encore de la voix, c'est...
ça va.
Donc pour commencer un peu l'interview, on a une sorte de fil rouge. On pose quelques questions, les mêmes à tous les invités. Pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
C'est plutôt jeu.
Ouais, c'est étonnant, mais tout le monde nous répond ça, je crois. Est-ce que pour toi, Cannes, c'est plutôt bière ou c'est plutôt champagne?
Ah, c'était plutôt bière, en l'occurrence, notamment hier soir.
Ouais, ça aussi, c'est une réponse qui revient souvent. Hein.
Ouais, c'est clair.
C'est plutôt camping ou Martinez en termes de logement?
Franchement, là, cette année, c'est plutôt Martinez que camping, mais bon, c'est pas le vrai Martinez.
Ouais,
quoi.
Vous êtes bien installé, quoi.
On est bien installé, ouais, c'est cool.
C'est plutôt off ou dodo, le soir?
Cette année, ça a été relativement dodo.
Dodo?
Ouais.
Plutôt calme.
Ouais, sauf hier soir, mais bon, on est dimanche, tu vois. C'est comme si c'était la dernière soirée du off, fallait en profiter un peu.
Pour toi, c'est plutôt un salon ou un festival?
C'est quoi la différence?
Alors, c'est à l'appréciation des invités.
Pour moi, c'est plutôt un salon.
Plutôt un salon. Et dernière question, c'est plutôt pro ou perso?
Non, c'est très pro.
C'est très pro. Très bien. Bah, du coup, Astien, je sais pas si tu veux enchaîner.
Oui, bah, Clément, tu peux nous parler justement un peu de Catch Up Game?
Alors, Catch Up Games, c'est une maison d'édition qui a été fondée fin 2014. On a sorti notre premier jeu vers mai-juin 2015, si mes souvenirs sont bons. Notre premier jeu, c'était Sapiens. On est deux depuis le début. Il y a Seb, mon alter ego, qui n'est pas là. Et parce que la soirée a été longue pour tout le monde.
Il y en a un des deux qui est resté au lit, c'est ça?
Ouais, pas tout à fait. En vérité, il est sur le stand. Donc, on est deux, Seb et moi, Clément. Et à ce jour, on a sorti, je crois, 7 jeux dont les plus connus sont probablement les derniers, à savoir Paper Tales, Q-Birds et Fertility.
Je pense que nos auditeurs en ont entendu parler. Ça se passe bien le salon? Vous êtes venu présenter Pharaon, c'est ça, cette année?
Ouais, nous, c'est ça, on remonte Fertility et Paper Tales. C'est la nouveauté du salon, c'est Pharaon qui a un proto très avancé, hein, parce qu'on a déjà fait pas mal d'illus. C'est le proto d'un jeu qui sortira vers mi-septembre 2019, là, en fin d'année, un peu avant Essen. Mm-hmm. Et du coup, pour nous, c'est l'occasion à la fois de le montrer et de commencer à le montrer aux joueurs, mais aussi de prendre pas mal de retours, pas tant sur l'équilibrage, même si on continue toujours à surveiller des choses, mais surtout sur l'ergonomie, en fait, sur toutes les petites questions ergonomiques, sur toutes les petites questions manipulation. Là, par exemple, on a une histoire de sac qui dans lequel on va piocher des ressources,
ouais.
Et qui nous a jamais vraiment posé problème pendant le dev. Et on s'est rendu compte dès la première journée qu'en fait, ça faisait chier tout le monde. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, dès jeudi soir, on s'est dit, alors en fait, alors que c'était même pas encore ouvert au public, mais dès jeudi soir, on s'est dit, OK, ça, c'est vraiment emmerdant. Il faudra trouver une solution d'enlever ce sac. Voilà, c'est des petites choses qu'on fait comme ça sur Pharaon. Ça nous permet vraiment de voir au mieux l'ergonomie du jeu. Ça, c'est cool.
Donc, encore des petits réglages sur ce jeu, quoi.
Exactement.
Et donc, c'est un jeu qui avait gagné un concours au Fish, c'est ça?
Un concours au Flip.
Au Flip,
parce qu'il n'y a pas de concours au Fish.
Non, mais nos fiches sont mauvaises. Au Flip de Partenay.
Oui, et puis on est le matin, donc ça va.
Ouais, c'est dimanche matin, en plus.
Le Flip, exactement. Il a gagné le prix, il était dans la catégorie expert et il a gagné, du coup, le prix expert en juillet dernier, en juillet 2018. Et d'ailleurs, c'est là qu'on l'a découvert.
C'est comme ça que vous l'avez repéré. Hein.
Exactement. C'est là que moi j'étais au Flip. C'est là que j'ai joué pour la première fois. Du coup, je l'ai ramené dans mes bagages à Lyon à la fin du Flip.
Et c'était déjà thème Pharaon?
C'était déjà le thème Pharaon. Ouais,
parce qu'on se demandait si après Fertility, il y avait une sorte de volonté de rester un peu dans la thématique.
Est-ce qu'on va lancer une gamme Égypte? Alors la prochaine fois, ce sera un jeu familial qui se passera en Égypte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était déjà le thème Pharaon en fait. Et bon, on va pas se mentir, c'est un jeu de gestion avec un thème qui est quand même un petit peu plaqué. En tout cas, qui est pas hyper immersif, tu vois, ça reste un jeu de gestion de ressources et voilà. Et à la fois, ça a beau être plaqué, il y a eu un gros travail de thématisation de Henri et de Sylvain avant qu'on voit le jeu. Et nous, évidemment, quand on a vu le thème, on s'est dit, ah, par contre, bon, étant donné qu'on a sorti Fertility, c'est peut-être compliqué d'enchaîner deux jeux sur l'Égypte. Et puis finalement, ils nous ont tellement défendu le thème parce que t'as quand même beaucoup de choses à faire dans le jeu, t'as beaucoup de choses différentes, et c'est clair que le thème, la manière dont ils l'ont travaillé, ça forme un tout qui est quand même très cohérent. Et en fait, ça revenait de dire changer de thème, ça revenait à changer pour changer, finalement, pour se dire, ah ben, on veut pas de l'Égypte, mais on n'a pas vraiment de raison de dire qu'on veut pas de l'Égypte parce que le thème fonctionne bien. Et il aurait fallu trouver un thème qui fonctionne aussi bien. Donc du coup on s'est dit bah vu que ça marche, ok, faisons-le, c'est pas très grave. De toute façon les jeux sont très différents et on fera, il y aura des illustrations qui sont très différentes et il y aura pas de mélange possible entre les deux jeux.
Tu peux nous le pitcher rapidement, Pharaon, pour les auditeurs qui connaîtraient pas.
Alors Pharaon, c'est un jeu dans lequel on joue les enfants de Pharaon et on va passer notre vie, c'est-à-dire la partie, à préparer notre mort, c'est-à-dire la fin de partie. Et lorsqu'on va tous mourir en fin de partie, on va simplement compter les points de victoire. Pour l'instant, ça s'appelle encore des points de victoire. On verra si ça change pour être un peu plus dans le thème. Évidemment, c'est celui qui a le plus de points de victoire, c'est pas très original, qui l'emporte. La particularité du jeu, en fait, c'est tout est un peu construit autour du chiffre 5. Il y a 5 actions différentes dans le jeu. Il y a 5 ressources et il y a 5 segments de plateau. Et en fait, il y a une roue d'action qui est au centre du plateau, qui tourne et qui indique le coût de base de chaque action. Et donc, par exemple, une des actions, c'est s'attacher les services d'artisan. Et je vais avoir un coût de base en plus du coût. Et le truc, c'est que si le coût de base qui est dicté, donc il y a à chaque fois une ressource qui tourne à chaque manche, si le coût de base, est, je peux en profiter pour l'inclure dans le coût de l'action globale, à ce moment-là, j'ai pas besoin de le repayer. Surtout d'accord. À l'inverse, c'est que si je fais une action qui me demande, par exemple, une poterie et un bijou et que le coût de base c'est une statue, et ben je serais obligé de se payer la statue en plus. Et cette roue d'action qui est au centre, elle change à chaque tour, à chaque manche pardon, et donc du coup des fois j'ai plutôt intérêt à attendre un petit peu avant de faire certaines actions, avec le risque de laisser passer ce qui peut m'intéresser, quoi.
D'accord. Et tu peux nous parler un peu des auteurs et l'illustrateur ou l'illustratrice?
Alors pour ce qui est des auteurs, c'est Sylvain Lasjuliareas. Et si j'écorche son nom, j'en suis désolé. Il préfère qu'on l'appelle Silas.
Silas. Okay.
Et Henri Molinet. Silas, c'est une des personnes qui était à l'initiative de Samsara, le deck building sur la réincarnation, qui avait fait un crowdfunding.
On reçoit l'éditeur tout à l'heure.
Ouais. Ok, bah voilà. Et il faisait partie de Caluda avant, mais je crois qu'il fait plus partie. Et Henri Molinet, qui est un ancien de la maison Kama côté jeux de société.
Ok.
Et quant à l'illustratrice, elle est déjà connue, en tout cas, elle est déjà connue de nous, puisque c'est Christine Alcouf, qui était déjà chez nous l'illustratrice de Paper Tales.
D'accord.
Et qui fait un travail assez différent de Paper Tales, a priori, à nouveau. Voilà.
Très bien. Bah, en parlant de Paper Tales, justement, tu peux nous parler un peu de l'aventure Paper Tales. Je crois que ça, en plus, la sortie de Paper Tales correspond aussi à votre arrivée chez BlackRock en termes de distribution. C'était à peu près à la même période.
C'était exactement ça. Ça fait un petit peu avant, mais c'est surtout marqué par la sortie du jeu, puisque c'était le premier jeu qui a été distribué par BlackRock, même si après, évidemment, tous les autres jeux ont suivi, mais en même temps, tous les jeux qu'on avait fait avant sont passés chez BlackRock. Yellow a pas gardé, avant, on était distribué par Yellow, et Yellow n'a pas gardé la distribution
des jeux antérieurs.
Et Paper Tales, ça correspond à peu près à mi-septembre 2017, si je ne me trompe pas. C'est qui est la date de sortie de Paper Tales, et derrière il y a eu une extension qu'on présentait à Cannes l'année dernière, donc qui a dû sortir vers mai-juin 2018, une extension au-delà des portes.
Mais comment ça s'est passé le sourcing pour Paper Tales, parce que si je me trompe pas c'est un jeu japonais, c'est ça, qui est assez ancien finalement, qui l'auteur l'a créé il y a 10 ans à peu près.
Dans ces eaux-là, j'ai plus la date exacte, je sais parce que on s'est renseigné parce qu'il y a des similitudes avec Seven Wonders.
Tout à fait.
On sait que le jeu était sorti à peu près à la même époque au Japon que Seven Wonders, en France et en Europe. L'histoire, c'est, je peux pas faire toute l'histoire du jeu, mais je sais qu'il était chez pas mal d'éditeurs, quand il était sorti. Alors peut-être que est-ce qu'il y avait une trop grosse similitude à l'époque avec Seven Wonders, qui venait de sortir, tu vois, et c'était peut-être plus facile pour nous de le faire un peu 10 ans après, tu vois. Mais l'histoire du jeu, c'est qu'en fait, le jeu qu'on a édité avant Paper Tales, 12 Heroes, était fait par deux auteurs japonais, dont Masato, qui est l'auteur de Paper Tales.
Donc le contact était...
Et ça s'était bien passé sur 12 Heroes. On était déjà en contact avec lui. Et il se trouve que Sébastien, qui avait pigé pour Plateau à l'époque, avait entendu parler de Vorpal, ce jeu de Masato. Et on avait entendu très bons retours entre les pigistes. Quand ils en parlaient, il y avait une personne... Lui n'y avait pas joué, mais il y avait une personne qui avait joué. Et Benjamin. Et qui avait vraiment fait de très bons retours. Il avait vraiment adoré. Et du coup... quand on a travaillé avec 12 Heroes, on cherche toujours des jeux, tu vois, on est toujours un peu à l'écoute de ce qui se fait. Et il s'en est rappelé, il a dit, Masato, un des deux auteurs, a fait ce jeu, Vorpal, qui avait très bonne presse à l'époque.
Et qui est le nom original de Paper Tales.
Vorpal, pardon.
Non, mais pas de souci.
Et on savait pas vraiment où c'en était, en fait. On se disait, ce jeu, a priori, s'il était si bon, il y a dû avoir un éditeur, tout ça. Et en fait, quand on n'entendait pas parler, on en a parlé à Masato, on lui a demandé où il en était, on lui a demandé s'il avait une copie du jeu qui pouvait nous, enfin, s'il avait pas d'éditeur, comme il n'en avait pas, s'il pouvait nous faire parvenir une copie du jeu pour qu'on l'essaye. Et ça s'est fait comme ça, c'est simplement, en fait, on l'a essayé, on a trouvé ça hyper cool. Par contre, les illustrations de Vorpal, Masato l'avait auto-édité, en fait.
D'accord.
Et donc, du coup, c'est un de ses potes qui avait pas spécialement illustrateur, qui avait fait les illus, il avait fait
beaucoup au Japon, je crois, les petites auto-éditions.
Carrément, le jeu de société est vraiment pas très développé au Japon, et donc, du coup, t'as énormément de gars qui font leurs petites auto-éditions. Mm. Et là, c'est un de ses potes qui l'avait illustré dans une espèce de veine Dark Souls, le jeu vidéo, que moi j'adore, mais on était un peu loin des graphismes sombre, de Dark Souls, mais il avait ce côté très sombre, voilà. Ouais. Et quand on l'a vu, on s'est dit bon, le jeu est hyper cool. On a fait plusieurs parties. Le jeu est hyper cool, mais en France et en Europe, ça va être compliqué avec des illustrations pareilles. Là, on est au-delà du parti pris. Et donc du coup, on était très chaud. On lui a proposé de faire la version française, mais aussi une version internationale, parce que en lui disant qu'il fallait refaire les illus, il ne pouvait pas le faire pour la France. Donc en fait, il nous a il nous a cédé les droits. Enfin, on ne cède jamais de droits, on a fait un contrat d'auteur, en fait, plus qu'un contrat de licence, et on a repensé le jeu avec lui, notamment sur cette partie éditoriale des Illus.
D'accord. Et comment il a réceptionné, justement, ce retravail d'illustration?
Il a adoré. C'est un truc qui était clair dès le début. Tu vois, c'était vraiment son petit bébé, c'est vraiment son jeu qui a le plus marché. Notamment chez lui, le jeu est très populaire, il s'est vendu 5000 exemplaires, enfin à l'époque il s'était vendu 5000 exemplaires de Vorpals au Japon, ce qui est quand même une très grosse vente pour un pays comme le Japon, qui joue peu. Et donc du coup il était entendu que la direction artistique qu'on allait trouver, il fallait qu'elle lui plaise, sinon évidemment on le ferait pas, et ça on s'était dit tout de suite au début, quoi. Enfin, ça marchera que s'il est vraiment d'accord, que s'il nous suit, parce qu'on était un peu au-delà de l'auteur, si tu veux, comme c'est un jeu qu'il avait déjà édité et qu'il aurait pu éditer, voilà. Fallait vraiment qu'il accroche, donc on avait assez rapidement eu cette idée de cette piste du papier découpé, on lui en a parlé, sur le papier il trouvait ça cool, on a fait faire des illus à Christine, et des essais, et quand nous on a été satisfaits, on lui a montré et il a tout de suite accroché, donc c'était parti, quoi.
C'est top. Du coup, vous avez sorti aussi Q-Birds l'été dernier. Ça a fait une bonne réception. C'était un peu le petit jeu de l'été dernier. Comment vous l'avez vu ? Est-ce que ça se vend toujours aussi bien ?
Ouais, ça se vend bien. Ça se vend moins bien là pendant Cannes parce qu'on est en rupture. mais du coup, ça veut dire que ça se vend bien. On a connu plusieurs ruptures. C'est très chouette. C'est un jeu qu'on avait découvert par Gaëtan et Igor de Forge Next.
Ouais.
C'était un de leurs projets qui nous avait présenté. Je sais plus si c'était à Essen ou à Cannes, et on avait trouvé ça très efficace, et on s'était dit c'est cool, tiens, on avait Freak Shop dans cette même gamme, et on s'était dit ça irait bien dans cette gamme là pour voir. On avait trouvé ça assez malin. C'est aussi un jeu sur lequel on n'a pas changé le thème non plus, c'était déjà le thème des oiseaux.
D'accord. J'allais dire vous étiez un peu précurseur sur le thème des oiseaux, parce qu'il y a Wingspan qui bosse pas mal sur le salon là.
Ouais, carrément. En fait, c'était surtout l'auteur Stephen Alexander qui était précurseur sur le thème des oiseaux. Et quand on a réfléchi à la thématique, on s'est dit putain, les oiseaux, ça fait pas rêver. Nous, on est joueurs en plus, donc autant pour le grand public, je comprends. Mais on disait les oiseaux, tu vois, ça me transporte pas vraiment. J'ai pas l'impression de vivre une grosse aventure quand je mets des oiseaux sur un fil, quoi. Mais à la fois, on avait déjà été en contact pour un projet précédent qui ne s'est toujours pas fait avec Christian, l'illustrateur. Et Christian, on l'avait sourcé parce que il avait justement fait une série d'illustrations sur des oiseaux cubiques qu'on avait trouvé absolument génial. On se dit c'est vraiment très chouette, et à l'époque on s'était dit si on reprenait un truc un peu cubique comme ça. Christian il fait pas du tout du jeu de société, il connaissait pas le milieu, en fait il travaille dans la com aux Pays-Bas.
Bien différent,
il fait beaucoup de trucs instit, et cette série d'oiseaux, en fait, c'était un kiff perso qu'il avait illustré qu'il avait fait pour se faire plaisir avec trois oiseaux. Ouais. Et donc du coup, il y avait ce projet sur lequel on avait commencé à travailler, et puis quand on a eu ce qu'allait devenir Q-Birds entre les mains et qu'on réfléchissait au thème, on se disait ce thème à la fois il est pas fou, mais en même temps, comme Christian, il adorait faire ce travail sur les oiseaux et que nous on trouvait ça très chouette, on s'est dit bah tiens, on pourrait lui proposer s'il voulait refaire une série de 8 oiseaux pour le jeu.
Ouais.
Et en fait, il a été hyper content parce que comme c'était pour son plaisir perso qu'il l'avait fait, finalement c'était l'occasion. Alors même si c'est du jeu de société, même si c'était un milieu duquel il était très éloigné, c'était une façon de donner vie à un truc perso qu'il trouvait hyper cool. Et donc du coup, on a réfléchi à 8 nouveaux oiseaux. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On est très content du résultat parce que on trouve que les oiseaux sont aussi chouettes que ceux qu'on avait vus et qui nous avaient sur lequel on avait eu un coup de cœur et qui nous avait conduit directement à le sourcer, quoi.
Ouais, je pense que c'est un bon choix parce que ça fait partie quand même pas mal de l'identité graphique du jeu. Hein. C'est quelque chose de marquant pour les joueurs, je pense, ouais. ce graphisme assez particulier.
Carrément, et je pense que c'est aussi une bonne part du succès. Maintenant, ouais. les jeux, c'est juste des jeux, c'est des ça. Produits. Pas au sens commercial du terme, mais ouais. C'est un tout qu'on achète et je pense que ça fait une grosse part du succès du jeu, ouais, cette première accroche avec les oiseaux cubiques là qui fait assez consensus en fait malgré le parti pris un peu.
Ouais. Après il y a toujours débat pour savoir quel oiseau c'est.
Ouais, c'est une
question. Alors, sur Twitter.
Il y en a un surtout, il y a l'espèce de piège de la rousserolle effarvate que tout le monde appelle le napolitain et sur lequel on a régulièrement des questions, que ce soit sur Facebook soit par mail. On a reçu juste avant un mail d'une fille qui s'appelait Caroline qui nous disait ma question va vous paraître un peu stupide mais on n'arrive vraiment pas à identifier cet oiseau qui est tout long. Cette question elle est pas stupide puisqu'on l'a, c'est une question qu'on a vraiment de manière récurrente et qu'on voit souvent passer sur Twitter. Ouais. Donc cet oiseau c'est une rousserolle effarvate. C'est un peu la caution culturelle de Q-Birds, vu que tous les autres oiseaux sont assez facilement reconnaissables a priori.
Très bien.
Et vous avez d'autres choses dans votre besace pour 2019 justement?
Non, pour 2019, on a Pharaon et ce sera le seul jeu de cette année. On fera pas de sortie avant et ça nous permet aussi de. On a quand même eu une année 2018 où qui était un peu chargée par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ouais. D'habitude, on est plutôt sur deux jeux. Là, c'est deux jeux et une extension. Alors, ok, c'est pas deux jeux, mais il y a eu quand même du travail de dev sur l'extension de Paper Tales, notamment sur le solo,
ouais.
Qui était quand même un mode de jeu à part entière. Et donc du coup, quand on a fait tout ce travail en 2018
l'année dernière.
Ouais, j'ai un peu de mal à suivre. Bah voilà, on n'a pas eu forcément le temps de préparer l'avenir. Donc là, on fait l'inverse en fait. Là, on a d'abord on a ce projet là. On a un seul projet en 2019, mais ça nous permet aussi en même temps de travailler sur tous les projets qui arriveront en 2020 et un peu plus tard.
Est-ce que des locomotives comme Paper Tales, Q-Birds vous permettent justement un peu de respirer et d'avoir un petit matelas pour attaquer plus sereinement les prochains projets?
Ben, au-delà de respirer, ça nous a permis de vivre déjà. Ouais. Et donc, du coup, sans parler de gagner des gros sous, ça nous a permis de nous dégager des salaires. Et donc, en fait, d'envisager correctement l'activité d'édition. Sinon, on sait jamais ce qui aurait pu se passer, mais je crois qu'il faut pas se mentir. Je pense très probablement qu'on aurait arrêté ou alors on aurait changé de fonctionnement et on l'aurait fait à côté du travail, enfin ouais. Voilà, et ça aurait pas du tout été la même chose, on n'aurait pas eu la même capacité de travail parce que maintenant on est vraiment tous les deux à plein temps dessus. Donc déjà, ça nous a permis de vivre et donc de faire que Catch Up Games existe réellement.
Ouais.
Mais oui, on est aussi moins sous pression parce que Paper Tales, parce que Q-Birds et aussi parce que Fertility marche bien.
C'est bien implanté,
de leur
côté.
On a eu des bons retours déjà sur Fertility et puis c'est aussi des jeux qu'on arrive mieux aussi à exporter qu'avant grâce au gros boulot de BlackRock sur l'export. Et donc oui, clairement, c'est pour ça qu'on a aussi plus de temps. Sinon, je sais pas ce qui serait passé. Ça se trouve, on serait arrêté, je sais pas.
C'est pas arrivé.
C'est pas arrivé, c'est tant mieux.
Vous êtes un éditeur aussi qui est très connecté. Vous avez, vous faites des vidéos news sur Facebook, une chaîne YouTube, un compte Twitter. Est-ce que c'est important maintenant pour un éditeur? C'est ça, être un éditeur 2.0. Il faut être présent sur les réseaux sociaux.
On est un éditeur 2.0.
Bah, vous êtes un des éditeurs, un des jeunes éditeurs qui est très présent sur les réseaux sociaux. Ouais.
Bah, je pense que ça vient pas mal de moi parce que à la base, moi, je suis réalisateur vidéo.
D'accord.
Et je le faisais pour la filiale web du groupe M6, chaîne de télé. Et donc, du coup, on avait beaucoup de sites et moi, je faisais de la vidéo pour ça, notamment. Et qu'il y avait une galaxie de sites sur des sites très high-tech comme Clubic, comme jeuxvideo.fr, qui tournaient autour de ces thématiques-là. Et moi, je faisais ça depuis 2007, en fait. Et j'ai fait ça pendant 10 ans avant de quitter M6. Et donc, j'ai forcément cette sensibilité-là. En fait, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet. J'ai fait beaucoup de travail sur Internet, beaucoup de vidéos sur Internet, être présent sur les réseaux sociaux. J'ai vu aussi ce que c'était en tant que journaliste, puisque moi, j'étais du côté journaliste, même si je n'étais pas directement journaliste, mais je faisais des vidéos avec les journalistes. J'ai vu ce que c'était la com quand on s'adressait à des journalistes, puisque moi, j'avais souvent des demandes et j'étais en relation avec des attachés de presse et ce genre de choses. Et donc, clairement, ça influence notre vision des choses et on est très présent. Et à la fois, c'est nous on le voyait déjà en tant que média comme Internet, ça permettait d'être proche des gens en fait, avec toutes les histoires de forums, mais aussi de réagir sur Twitter, sur Facebook. Et déjà en tant que média, quand je travaillais pour Clubic, c'était quelque chose qui était très très intéressant, parce que tu vas au-delà du média en fait. Tu peux avoir une vraie relation en fait quand t'es un média avec les gens qui te lisent, et en fait c'est exactement la même chose avec quand t'as une maison d'édition ou quelle que soit ton activité.
C'est une relation privilégiée avec les joueurs.
Et c'est hyper important, parce que du coup les gens peuvent vraiment t'interpeller. C'est vraiment le truc très cool, tu vois, quand on parlait, enfin dès que t'as une question, on reçoit beaucoup de questions par exemple sur Facebook, sur Twitter, et c'est plus simple en fait pour pas mal de gens que d'envoyer un mail, que de chercher une adresse mail et d'envoyer un mail à contact@catchupgame.com, tu vois, qui est impersonnel au possible. Et donc oui, on est présent parce que ça permet de beaucoup discuter avec des gens, au-delà même du simple mot communication, tu vois, un peu moche, on va dire. Et voilà, je pense que ça vient de ce passif-là que j'ai eu sur le web pendant une dizaine d'années.
D'accord. Okay. Et c'est toi du coup qui gère les vidéos qui sont postées sur YouTube, Facebook, ou
avec Seb, on gère les choses en fonction des affinités qu'on a avec toutes les choses. Et oui, du coup, moi, pareil, pour se passer, à la fois parce que je fais des vidéos et aussi parce que j'ai beaucoup traîné sur les réseaux sociaux et que j'ai aussi eu beaucoup d'expériences comme ça, des relations à la fois avec le public, mais aussi avec de la presse ou des médias. Oui, c'est moi. Du coup, c'est moi qui gère tout. Seb, c'est un truc qu'il aime pas trop. Là, comme c'était un peu le vilain mot au début, quand je lui ai dit, tiens, on va faire ça, ça va être cool.
Donc là, on est dernier jour du Festival International des Jeux de Cannes. C'est quoi ton bilan là pour à l'instant T du festival? Ça s'est bien passé? Vous avez eu beaucoup de monde? Les retours sont bons?
C'est très cool, ouais. Alors nous, on a une vision un peu biaisée, parce que depuis quelque temps, on fait moins d'animations. En fait, c'est des amis à nous de nos assos de jeux de société qu'on a sur Lyon,
qui expliquent les jeux,
ouais, qui font de l'anime pour nous, parce que nous, ça nous permet de dégager du temps. Pour faire beaucoup de sourcing, rencontrer pas mal de gens. Alors ça a un côté un peu pénible, parce que du coup, typiquement sur un projet comme ça, on peut pas avoir les retours directement des joueurs. Ce qui est cool, c'est que Laurent et Marie, ils sont quand même joueurs, et donc du coup ils font des remontées, enfin tu vois,
ils prennent bonne note.
Ils nous remontent bien tous les trucs. C'est important aussi pour des trucs d'ergonomie. Tout au long, quand on a discuté avec eux, on a eu de très bons retours. Alors évidemment, tout le monde n'aime pas, tu vois, mais on peut pas faire de peu aimer tous les jeux, ça c'est évident. On a des bons retours, et puis ce qui nous fait plaisir, c'est que on a finalement fait très peu de com, parce qu'on est quand même très en avance sur la sortie du jeu. Je crois qu'on a communiqué je sais pas 5-6 jours avant, vite fait, sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé quand on a fait une vidéo, dans une vidéo, et on a fait un petit post vite fait, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui sont venus voir Pharaon spécifiquement. Et quand Marie et Laurent leur demandaient pourquoi, ils disaient, bah, on a vu le post Facebook, on a vu la vidéo, tout ça. Et c'est cool, parce que au-delà de l'attente du jeu, parce que c'est difficile, on a tellement peu parlé, ça veut dire qu'en fait tout ce travail de communication, de proximité avec les joueurs qui ont déjà joué à nos jeux, et ben en fait il est concret, il se concrétise, tu vois, sur un truc comme ça, quand les gens ils disent du coup je suis votre page Facebook et je l'ai vu, et ça m'a donné envie, du coup je suis venu vous voir. Donc c'est assez chouette, parce que du coup c'est pas juste des mots, tu vois ce que je disais, c'est vraiment, tu sens que les gens ils te suivent, et ça fait plaisir quand tu montes ta boîte, de te rendre compte que t'as des affinités avec des joueurs, et que du coup ils s'intéressent à ce que tu fais, et que petit à petit ils viennent te voir de festi en festi. Donc ça c'est vraiment très chouette pour nous.
C'est une bonne reconnaissance sur la qualité des jeux que vous avez sortis précédemment, c'est que les gens commencent à vraiment vous suivre sur vos nouveautés, quoi.
Ouais, oui, je pense qu'il y a ça, que les gens se rendent compte qu'on fait des trucs qui sont pas trop trop déconnants à mesure qu'on sort des jeux, et effectivement, je pense que ça vient de là, et c'est vrai que c'est plaisant, quoi.
Tu nous disais du coup que vous aviez des animateurs, ça vous permettait de dégager du temps pour faire du sourcing, etc. C'est quoi tes sources? Vous prenez des rendez-vous pour le festival en avance, ou vous errez un petit peu sur le Protolab ou sur Roll Off pour repérer des potentielles pépites.
Non, c'est un truc qui s'est transformé aussi au fil du temps, à mesure qu'on sortait des jeux et à mesure qu'on vendait des jeux, qu'on était connus, on a aussi été connus aussi des auteurs. Et là, cette année, je crois qu'on a battu des records sur le nombre de demandes qu'on a eu, de demandes de rendez-vous.
Ah oui.
On en avait déjà avant, et avant, on les prenait au off. Tu vois, et c'est compliqué parce que quand tant qu'il y a la journée d'animation, que ça finissait à 19h, que toi tu sortais du salon à 20h, tu mangeais vite, bam, t'allais off, t'allais rendez-vous, on était toujours à la bourre et tout le monde prenait du retard. On finissait à 6h du matin et boum, à 9h, t'étais à nouveau sur le salon. C'est compliqué. Puis à la fois, quand tu vois les jeux des gens, c'est pas très respectueux parce que tu le vois pas dans de bonnes conditions.
Ouais, c'est toujours compliqué.
Et donc du coup, au bout d'un moment, à SNA à Cannes, on a pris la décision de... C'est aussi parce qu'on a eu les moyens de le faire, en fait, tout simplement financiers, aussi parce qu'en même temps qu'on se paye, on a plus de moyens pour faire ce genre de choses. On peut payer, même si c'est des amis, ils sont rémunérés. Et du coup, ça nous permet de répondre on répond à tous les auteurs, mais on peut pas tous les voir, mais on fait toujours une sélection sur règle. Mais oui, c'est essentiellement comme ça. Et puis après... il nous restait quelques créneaux. Quand il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont pitché vite fait des jeux, alors on a rajouté quelques trucs par-ci par-là. Mais c'était surtout de la prise de rendez-vous avant.
En amont.
Ouais. Et si on va sur le off maintenant, c'est plutôt pour le côté cool, voir des gens qu'on connaît déjà, qu'on peut suivre, boire des bières et ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus reposant. Et c'est plus fun.
très bien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On arrive au bout de cette petite entretien à Cannes, est-ce que t'as des messages à faire passer ou des choses à dire aux auditeurs de Proxyjeux?
Non, même pas. Il faut déjà que je réfléchisse pour savoir ce que je vais mettre dans les vidéos quand on les publie. Tu vois, j'ai lancé cette rubrique, donc j'ai pas préparé. Non, c'est cool de nous avoir invités. C'est très sympa.
Ah ouais. C'est la première fois qu'on est sur le fige et on faisait un peu ça des bretzels et des jeux déjà. Et voilà, ouais. C'est une très bonne expérience.
C'est plus loin de chez nous des bretzels, du coup on avait moins l'occasion d'y aller, même si ça y aller évidemment. Non, c'est très cool. Merci de l'invitation.
Bah écoute, il n'y a pas de quoi.
Pas de problème.
Chère auditrice, cher auditeur, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee pour nous soutenir. C'est important le Tipeee, hein, Astien.
Tout à fait.
On se retrouve très vite sur Proxyjeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.